Comment ça va? Ça va? C'est un bon moment? Alléluia. Le message que je voudrais vous apporter ce matin est un message assez particulier parce qu'il m'a fallu, je l'ai eu très rapidement, mais il m'a fallu 3 semaines pour le ruminer. Parce que c'est parti de quelque chose de très simple, mais que je ne comprenais pas ce qu'il voulait me dire Dieu. Combien de fois Dieu nous parle? On ne comprend pas et on passe à autre chose. Je ne sais pas, elle a dû se tromper, c'était peut-être pas pour moi le message, je ne sais pas. Enfin bon. Et donc, moi, Dieu me parle de différentes façons, comme je pense comme à chacun. Donc déjà, il me parle dans sa parole, en premier lieu. Mais il va me parler à travers un message, il va me parler à travers des frères et des sœurs. Il va me parler de différentes façons dans la nature. Comme je vous ai déjà expliqué, moi, il m'a déjà parlé à travers de non-chrétiens aussi. Faut-il avoir le discernement d'écouter quand Dieu parle? Et là, dans l'immédiat, Dieu m'a parlé à travers ce petit machin qui s'appelle des aimants. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux me dire à travers cela, Seigneur? Et il m'a fallu un certain temps. Il y a des choses qui sont arrivées tout de suite. Mais là, je dirais que c'est un peu, vous savez, un peu comme un enfant qu'on lui dit, tiens, va me chercher le sel et le poivre. Il est déjà parti, qu'il t'a ramené que le sel et il a oublié le poivre. Tu te rappelles quelque chose, certain? Donc j'ai dit, non, non, Seigneur, moi je voudrais comprendre ce que tu veux me dire à travers ça. Des fois, on va trop à la surface. Dans le message de Marc, voilà, il faut décaisser la terre, il faut enlever les pierres pour arriver en profondeur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire en profondeur en moi? En chacun de nous. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre et qu'est-ce que tu veux que j'apporte à mes frères et sœurs à travers cette chose banale? Qui n'a jamais joué avec des aimants? Dites-moi. Moi, je me souviens quand j'avais mes petits, ils avaient la chaise haute en plastique, et je mettais un aimant et puis j'avais mis un autre aimant, et puis l'aimant il se déplaçait, puis il essayait de l'attraper sur la table. Qui a jamais fait ça? Allez, qui a déjà joué avec un aimant? Lève la main. Voilà. Donc la plupart, vous savez qu'on peut bien s'amuser avec un aimant. On peut jouer à pousse-pousse. C'est marrant parce que j'en ai acheté et mes enfants sont mis à jouer sur la table avec. On est des enfants en fait, hein. On aime bien jouer, hein. Et moi, j'aime bien les aimants. Et c'est pour ça que je voulais vraiment dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre à travers cette chose si simple? Et de prendre le temps de se poser, de se taire, de faire le vide là-haut. Alors là, c'était le plus dur pour moi. Faire le tais-toi. Qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers cette chose aussi banale? Et j'étais très étonné de tout ce qu'il a pu me décrire. Et il m'a fait tout un message. Mais ça a pris du temps. Donc je voulais synthétiser parce que je crois qu'on en aurait au moins pour 4-5 heures. Vous avez 4-5 heures? Non? Bon, d'accord. Alors, on ne va pas prendre ça, on va juste aller, on va le faire en 2 heures. Alors, donc, non, je vais sérieusement. Bah, il m'a ramené. Ah, quand je n'étais pas en lui, avec des aimants. Vous avez déjà essayé de mettre les deux plus ou les deux moins l'un en face de l'autre? Qu'est-ce qui se passe? Ça s'oppose. C'est étonnant. On voit rien. Pourtant, on sent qu'il y a une force qui se pousse. C'est quoi cette force? Bah, comme les aimants sont opposés, c'est le péché. Il m'a ramené au péché, le péché qui est opposé à Dieu. Vous ne le voyez pas, hein? Mais je peux vous dire. Alors, je suis désolé, je voulais en acheter et en mettre par-ci par-là pour que vous puissiez faire les expériences avec moi. Malheureusement, j'étais très étonné que c'était cher. Je ne pensais pas que c'était aussi cher que ça. Vraiment. Enfin bon. Et vu que je ne vais pas dépenser l'argent bêtement de l'église, bon, voilà. Mais vous pourrez faire les expériences chez vous. Vous mettez les deux plus ou les deux moins en face et vous sentez une force qui s'exerce. Et le Seigneur m'a fait voir, regarde, ça c'est le péché. Alors imaginons que ça c'est Dieu. Et ça c'est vous. Mais il y a quelque chose qui l'empêche. Ou si, je donne beaucoup de force, mais dès que je vais lâcher, ça va se repousser. Le péché nous fait éjecter de la présence de Dieu. Nous rejette. Le péché, Dieu ne peut pas le voir. Dieu ne peut pas voir le péché, et c'est bien pour ça qu'on avait besoin d'un sauveur. Mais c'était une image que Dieu voulait me montrer. J'aime bien aussi cette image de la foi. La foi, la ferme assurance des choses que l'on espère, les démonstrations de celles qu'on ne... Ah ouais, on ne la voit pas, hein, pourtant. Alors qu'est-ce que je la sens? C'est impressionnant. Ça, c'est des petits aimants de bureau. Il y a des aimants beaucoup plus forts, puissants. Le péché nous sépare comme l'aimant moins contre moins et sont opposés. Et nous le voyons très naturellement, et moi ça m'a toujours amusé. J'ai quatre enfants. Une des premières choses qu'ils ont vite compris, c'est le mot non. On s'oppose à papa et à maman. Non, je fais pas ci, non, je fais pas ça, non, j'obéis pas. Et tout enfant que je connais, le non est plus facilement appris que le oui. Est-ce que je me trompe pour la plupart? Florian, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, hein, voilà. C'est bizarre, mais pourquoi? Mais c'est normal! Parce que nos enfants sont opposés à Dieu. Et donc, sont opposés à nous. Parce que nous sommes porteurs de Dieu. Donc, nous sommes forcément en opposition. Eh oui, j'aime beaucoup. Voilà, Dieu m'a redescendu à une chose toute basique. Nous sommes dans les aimants, si nous les mettons en opposition, c'est l'opposition qui se manifeste dans notre vie par le péché. Toutes sortes de péchés, et j'y reviendrai plus tard. Eh oui, quand on rencontre Dieu par son Saint-Esprit, on parle de quoi? De conversion. On parle même que quand quelqu'un qui a rencontré Jésus-Christ, qui s'est donné à Jésus-Christ, on dit qu'il change de direction, il change dans sa vie, et on parle même de 180 degrés, c'est-à-dire qu'on partait dans un sens, on part dans l'autre. C'est marrant, l'aimant, si vous faites 180 degrés, il se colle. Ça tient bien, hein? Mes frères et sœurs, pour ceux qui bien sûr ont mis leur vie en règle et qui ont accepté Jésus-Christ, etc., vous devez être collés à Dieu. Vous devez vous coller à lui. On doit se coller à Dieu. Être collé à Dieu, moi j'aime beaucoup l'image d'un enfant qui a peur. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait un enfant qui a peur? Il court dans les jambes de papa ou de maman. Il se colle. Et même des fois, tiens bien. Nous devons être collés à Dieu. Nous devons être ces enfants qui se collent à lui. Où est notre protection? Où est notre salut? Alors, on va commencer par lire la parole, bien évidemment. Dans Éphésiens 2, 28. Je voudrais vous inviter à lire Éphésiens 2, 28. Mais avant toute chose, on va prier. Oui, Seigneur, moi je voudrais déjà dire, Seigneur, ce n'est pas mon message, c'est ton message que tu as mis sur mon cœur. Vraiment, Seigneur, que tu nous parles. Que je sois ton messager, ni plus ni moins. Comme j'ai l'habitude même de dire, si je pouvais être une coquille vide et que c'est toi qui parles, Seigneur, ça m'arrangerait bien. Moins de Vincent, plus de toi. Parce que c'est toi qui parles, c'est toi qui convainc de justice et de jugement. Révèle ta parole, Seigneur. Que ce que tu as mis sur mon cœur, de ce que j'apporte, Seigneur, ne soit pas obscur, mais éclairci par ton esprit. Et qu'ils repartent, pas comme ils sont venus, mais qu'ils aient une révélation toute particulière que tu veux agir dans leur vie. Amen. Dans Éphésiens 2, 28, Éphésiens 2, 28 n'existe pas. Ah, ça commence bien. J'ai raté, mais c'est. Alors, j'ai raté, mais j'ai écrit le verset. Donc, vous me corrigerez pour la référence. La Bible dit, donc ce n'est pas dans Éphésiens 2, 28, mais qui dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. 2,8, voilà. Voilà, c'est 2,8. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 28. C'est 2,8. Merci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Je voudrais qu'on mette voilà, quelques bases en place. C'est Dieu qui se manifeste dans nos vies. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Combien au jour d'aujourd'hui pensent qu'il faut qu'ils fassent telle ou telle chose pour qu'ils puissent acquérir? Non. Non. C'est Dieu qui a manifesté son amour pour toi que tu es gracié. La grâce, cadeau immérité. Tu n'es pas un bon élève, mais je t'aime et je te fais un cadeau. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Mais moi, il y a une question du coup que Dieu m'a dit, est-ce qu'on connaît vraiment Dieu? Alors, est-ce que vous connaissez Dieu? Ah. Bon, on mettra une feuille. Je m'attendais pas à ça. C'est pas grave, on va s'adapter. Yep. Voilà. Alors, on va s'adapter. Voilà. Voilà, Dieu, il est saint et parfait. Donc on va dire que. Donc ça ne marchera pas. Bon, alors, tant pis. Parce que je pensais que c'était aimanté, donc j'aurais pu utiliser Dieu. Merci, tableau. Alors, donc, on va apprendre autrement. Est-ce que nous connaissons réellement Dieu? Parce que je crois que nous avons beaucoup d'images erronées de Dieu. Et c'est là où le Seigneur vraiment voulait m'emmener par rapport à ces histoires d'aimants. Alors, comment on pourrait définir Dieu? Allez, donnez-moi deux, trois propositions. Allez, un facile. Par rapport. Alléluia! Il est aimant! Alléluia! Un facile. Bien! On dit qu'il est. Oui, patient, lent à la colère, miséricordieux. J'ai entendu quelque chose par là. Vivant, puissant, omniscient, omniprésent, omnipotent. Amen. Il est saint. Allez. Mais c'est marrant, il y a des adjectifs qu'on lui donne rarement. C'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu exclusif. C'est marrant, c'est des mots, on n'entend pas trop dans les églises. Hein. On va entendre que c'est un Dieu qui ne varie pas, où il n'y a pas ombre de variation. Et c'est là où. Pardon? Aussi, un Dieu sanguinaire pour ceux qui sont contre lui. Effectivement. Et Dieu, voilà, il voulait m'emmener dans ce domaine. Quand il m'a parlé des aimants, vous voyez, parce que moi je pouvais très vite trouver des définitions, des versets qui correspondaient. Et là où le Seigneur voulait m'emmener et qui veut vous emmener, c'est que c'est un Dieu jaloux. Alors, la chose est très simple. Prenez un aimant, vous le mettez, ça fonctionne. Mettez une feuille de papier, ça fonctionne. Mais au bout d'un moment que vous rajoutez des feuilles, des feuilles, des feuilles, des feuilles, des feuilles, imaginez que chaque feuille, c'est l'une de vos passions, l'une de vos désirs personnels, etc., etc. L'aimant, il fait. Parce que l'aimant ne tient plus, parce qu'il y a eu tellement de choses qui se sont mises entre Dieu et vous, que la relation entre vous et Dieu n'a plus suffisamment d'accroche. Et c'est ce qui se réalise dans beaucoup d'églises, ce qui s'est réalisé dans beaucoup à cause de cette pandémie. On pensait que des frères et sœurs étaient des gens, voilà, et puis, oh, il y a un problème, ils ne sont plus là. À qui es-tu accroché? Sur qui es-tu accroché? Connais-tu vraiment Dieu? Dans Exode 20, on va lire du verset 1 à 6. Donc là, on est au début de la parole, hein. Exode. C'est les 10 commandements, hein. Exode 20 dit, Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux et de ce qui est plus bas que terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne leur rendras pas de culte, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit les fautes des pères sur les fils jusqu'à la troisième génération et la quatrième génération et ceux qui me haïssent et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Nous avons beaucoup oublié et c'est ce que Dieu voulait me manifester dans cette histoire d'aimant. Que nous sommes rentrés dans des eaux dangereuses. Qui as-tu en priorité? Est-ce que tu es collé à Dieu? Ou est-ce qu'il y a beaucoup de feuilles qui se sont mises entre toi et Dieu? Tes priorités. Je voudrais juste vous rappeler, et c'est vraiment ce domaine-là que Dieu voulait me faire appuyer. Nous avons un Dieu qui est jaloux et qui est exclusif. Il ne veut pas que tu aies d'autres dieux dans ta vie. Alors, c'est dire, bah moi, j'en ai pas à la maison. J'ai pas de Bouddha. Mais peut-être que ma voiture, c'est peut-être un dieu. Mon travail peut être un dieu. Mes sous, mon temps libre, ma télé, mes sacs à main, mes chaussures. Mes vêtements. Etc., etc. Après, qu'est-ce qui dans ta vie, tu n'es pas capable de te séparer et qui a de l'importance, plus que Dieu? Moi, je vous ai déjà expliqué que j'étais maquettiste, j'avais fait un super beau camion américain qui m'avait pris 6 mois, et Dieu m'a demandé de le prendre et de le jeter par terre, et j'ai mis un certain temps avant de lui dire oui. Et une fois que je lui ai dit oui, il m'a dit c'est très bien, il reste sur l'étagère. Parce que ce n'est plus un Dieu. Mais Dieu est exclusif, il veut l'amour de ses enfants. Et on en a fait quelque chose d'un peu... Il y a la grâce de Dieu. Donc du coup, on permet certaines choses. On permet quoi en fait? Dites-moi. On se permet beaucoup de choses qui ne sont pas normales. Dans Jacques 1, de 16 à 17, qu'est-ce qu'il dit? Jacques 1, 16-17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni ombre de variation. Donc que vous prenez de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu n'a pas changé. Dieu attend que ses enfants soient exclusifs pour lui. Alors je sais que là, je mets la barre très haute. Mais quelles sont vos priorités dans vos vies? Quels sont vos engagements avec lui? Quelles sont les zones que vous ne lui avez pas données? Quelles sont les zones que je ne lui ai pas données et qu'il a encore besoin d'œuvrer dans mon cœur? Il sera même dit dans Deutéronome 4. Quand on cherche dans la parole, on trouve des perles, je peux vous dire. Deutéronome 4, à partir du verset 23-24. Deutéronome 4. Prenez garde à vous de peur que vous n'oubliez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a conclue avec vous et que vous ne fassiez des statues, des représentations quelconques, etc., etc. Prenez garde. Dieu, il est conscient que nous sommes faillibles. Dieu est conscient que nous sommes fragiles. Dieu est conscient que nous avons des penchants. Prenez garde. Et c'est bien pour ça que nous avons besoin de la communauté des frères et sœurs, de se parler, de se côtoyer, pour dire, ah oui, effectivement, je faisais ça, c'est... Ah bon? C'est marqué où qu'il ne fallait pas que je fasse ça? Attends, on va prier. Et quand le Saint-Esprit il te le dit, il te dit, oui, c'est pas juste. Tu ne glorifies pas ma vie. Tu ne glorifies pas ma vie quand tu fais telle ou telle chose, quand tu penses. Combien de fois nous avons mal pensé? Jésus dira, tu n'as pas fait, mais tu l'as convoité, donc tu l'as déjà fait. Combien de fois vous avez... Allez, certains, ces messieurs en général, c'est plutôt les hommes, ont convoité une belle voiture. Les femmes vont peut-être plus convoiter des belles chaussures et des jolies robes. Mais on est tous pareils. Quand est-ce qu'on a réellement pris conscience que ce n'était pas juste devant Dieu? Quand est-ce qu'on a pris conscience que nos voies ne sont pas justes devant Dieu? Et qu'on se tolère, on tolère telle chose. Attends. C'est pas ce qui est marqué. C'est pas ce que Dieu. Et en plus, vous le savez aussi bien que moi, le Saint-Esprit vous le dit. Parce que je ne pense pas que je sois un homme plus extraordinaire que vous. Donc je pense que le Saint-Esprit vous parle tout autant que moi. Mais est-ce que l'on l'écoute? Est-ce que notre cœur penche à l'obéir? Ah là, personnellement, je suis en cours. Prenez garde à vous de peur que vous n'oubliez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a conclue avec vous. C'est ce que vous avez conclu quand vous avez accepté Jésus, que vous êtes passé par les eaux du baptême. C'est une alliance que vous avez conclue avec Dieu. Au verset 24, il dit, car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Mais alors je sais que c'est peut-être pas un message qui est très dans le sens du poil, je suis désolé, mais c'est ce que Dieu m'a dit. C'est ce que Dieu m'a demandé de transmettre. Est-ce que tu vas t'engager entièrement? Est-ce que tu vas te poser, comme dit la parole, au pied de la tour et tu vas calculer? Est-ce que tu vas te regarder et dire, mais attends, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis avec Dieu? Est-ce que je vais donner 50%, 30, 40, 60-40, 20-80. C'est un Dieu jaloux. Un Dieu, mais à l'inverse, il veut nous donner. Dans 1 Corinthiens 3, verset 16, ou pour ceux qui notent, c'est aussi 1 Corinthiens 6, 19 à 20, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Dans Galates 2, 20, nous dit: j'ai été crucifié avec Christ. Si tu t'es engagé avec Dieu, c'est pour toi, c'est pour moi. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ah, zut. Quoi? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, donc, bah oui, hein, je ne suis pas encore au ciel, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Donc, par l'intermédiaire de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Combien de fois nous avons retourné ce verset? Combien de fois j'ai retourné ce verset à mon avantage? Non, je ne m'appartiens plus. Moi, je me souviens, j'avais 16 ans et j'ai pris cet engagement. Ce n'est plus moi qui vis. Et je peux vous dire, régulièrement, je le proclame, ce verset. Régulièrement, je suis obligé de dire, eh oh, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est pas à toi de commander, c'est à lui. C'est à lui de commander, c'est à lui de décider. C'est qui est commandant chez vous? Je vous laisse cette question en suspens. Qui est-ce qui commande dans vos vies? Qu'est-ce qui s'est mis entre vous et Dieu et qui au jour d'aujourd'hui vous fait du mal? Combien de fois j'entends des gens se plaindre de Dieu? Mais ce sont eux qui se sont éloignés. Dieu est toujours là. La parole le déclare. On l'a dit, il est omniscient, omnipotent. C'est-à-dire qu'il est tout le temps là. Il est présent avec toi. Que tu fasses le bien ou le mal. Il est là. Mais est-ce que nous aurons cette honnêteté de venir au trône de la grâce et dire: Seigneur, j'ai fauté contre toi, le ciel et la terre. Je te demande pardon. Ou est-ce que nous allons encore reprendre notre vie en main et dire: voilà, c'est ma vie, c'est mes week-ends, c'est mes finances, c'est mes enfants, c'est mes ci, c'est mes ça? Je sais, c'est pas rigolo. Mais pourtant, il y a tant de victoires derrière, mes frères et sœurs. Il y a tant de grâces derrière. Nous voulons voir des miracles, nous voulons voir la grâce de Dieu se manifester. Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. C'est de mettre Jésus en priorité dans ta vie. Dans Galates 5, 16 à 18, c'est Jésus qui dit. Non, ce n'est pas Jésus, je dis une bêtise, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas Jésus. Je dis donc: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires ou opposés, ça marche, à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a deux contraires ou opposés à celui de la chair. Ils sont opposés. Ah bah tiens, c'est marrant, tiens. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Alors tu veux quoi, qu'on soit des marionnettes? Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi, sous la condamnation. Alors attends, je reprends le verset. Marchons selon l'esprit. Bon, déjà, il faut avoir l'esprit, hein. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, nos désirs à nous, nos premiers désirs, nos élans, tous ceux qui nous pourrissent la vie, qui nous éloignent de Dieu, justement. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à celui de la chair. Ils sont opposés. Nous sommes opposés. Mais pourquoi sont-ils opposés? C'est ça qui est intéressant. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez, Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Dieu a des solutions pour que tu ne sois pas condamné. Parce que Dieu a les solutions pour que tu vives dans la réussite. Mais pour ça, il faut faire ce que lui demande, pas ce que toi, t'as envie. Ah, c'est chaud quand même. Il est mignon le pasteur, là, ce matin. Il est bien cool. Mais si tu veux vivre une vie de réussite, si tu veux que la manifestation de Dieu se manifeste dans la vie de tes enfants, dans ton travail, dans tes finances, dans ta santé, qu'est-ce que Dieu, tu veux que je fasse? Moi, je me souviens très bien de ma mère qui priait pour que mon père il soit plus rempli de l'Esprit de Dieu. Et Dieu lui a demandé, respecte la vitesse, respecte le code de la route. C'est quoi le rapport? Il est où le rapport? Nous, on se met toujours des montagnes. J'ai aimé ce livre d'un pasteur qui un jour a décidé, un jour, comme quoi il est honnête, hein, tout ce que tu me demanderas, je le ferai, un seul jour. Faut pas être fou quand même, hein. Et ce jour-là, donc c'était au Canada, il a été faire des courses, et le Saint-Esprit dit, retourne-toi. Oh, retourne-toi. Ah oui, c'est vrai, j'ai dit que je ferais tout ce qu'il me demande de faire. Et il s'est retourné et il a vu une mamie au Canada, il y avait une butte de neige et elle ne pouvait pas la franchir du supermarché au parking. Donc il est retourné vers cette dame, il lui a proposé son aide, il lui a dit, est-ce que vous me faites confiance pour vous porter, etc., etc. Elle lui a fait confiance, il l'a aidé à passer cette butte de neige. Voici la seule chose que ce jour-là, Dieu a demandé à ce pasteur. Nous, on se fait des montagnes que si demain, je demande à Dieu, dis-moi ce que tu veux, je le ferai. On a l'impression qu'on va perdre nos femmes, nos enfants, on va perdre notre travail, on va perdre je ne sais pas quoi, on n'aura plus d'argent. Mais Dieu, il sait ce dont tu as besoin. Tu crois que Dieu, il ne sait pas ce que tu as besoin, ce que tu souffres, ce que tu... Mais on n'a pas confiance en Dieu, en fait. On le proclame, on le chante, mais on ne le vit pas. Vous connaissez l'histoire de Yang Guisho, qui est tombé dans la montagne? Donc en Chine, ils ont une montagne de prière, et puis bon, bah, ça. En Corée, merci. Ils ont une montagne de prière, et puis bon, il avait prié un peu plus longtemps, et puis la nuit commence à tomber, il prend le chemin, et puis il trébuche. Il commence à rouler, il tombe de la montagne, puis il s'attrape à une branche. Et là, il dit, Seigneur, viens me délivrer! Et le Saint-Esprit lui dit, lâche-toi. Il est pendu, hein, dans le vide. Seigneur, viens me délivrer! Lâche-toi. Au bout d'un moment, bah, il n'a plus de force dans les mains. Avec un grand élan de foi, Seigneur, je me confie en toi. En fait, surtout que tu n'as plus de force dans les bras. Hein? Il lâche. Le chemin était à 20 cm sous ses pieds. Moi, j'ai l'honnêteté de vous dire combien de fois je ne fais pas confiance à Dieu. Je crois en sa parole. Je crois qu'il est mort, qu'il nous a tout donné par son esprit. Mais combien de fois? Combien de fois je doute? Combien de fois j'ai peur? Combien de fois je calcule? Je fais des plans sur la comète et que mon cerveau se met à... Et pourtant, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est dur. C'est dur. Là, moi, j'ai pas honte de vous le dire. C'est dur. Je ne vais pas vous mitonner. Je ne vais pas vous rajouter. Non, ce n'est pas évident. Parce que notre nature ne veut pas lâcher. Elle s'accroche de toutes ses forces. Et pourtant, chaque matin, il va falloir la reclouer sur la croix. Nous avons un bon exemple d'une histoire qui est dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, à partir du verset 32, et qui se finit au chapitre 5, au verset 11. Pour la plupart, vous la connaissez l'histoire, c'est Ananias et Saphira. C'est le début de l'Église. Les uns des gens ont des propriétés, ils vont servir de lieu de rassemblement, et d'autres vont vendre leurs biens pour pouvoir nourrir l'ensemble. Et quel désir, quel esprit s'est manifesté dans Ananias et Saphira pour, déjà, une, Dieu ne leur a pas demandé de vendre leur champ, c'est leur bien, ils vont le faire. Ok? Et ils vont donner une partie, ils vont retenir une partie, on ne sait jamais. Non, vous le savez, le on ne sait jamais. Mais ça, ce n'est pas grave. Parce que le champ, ce bien leur appartenait. Qu'ils le vendent, qu'ils ne le vendent pas, c'est eux que ça regarde. Qu'ils gardent une partie, c'est pas grave. C'est que quand ils vont apporter devant l'autel, ils vont dire, c'est tout. C'est le prix du bien qu'on a vendu. Et là, l'esprit va dire, ah bon? C'est bien là le prix que tu as vendu ton bien? Ah oui, hein? Je sais pas, on va dire qu'il a vendu 1000 euros, puis il a porté 500 euros devant l'autel, devant tout le monde. Vous savez, hein, on fait comme les autres. Vous nous voyez bien? Nous aussi, hein, on est des gens bien. Pourquoi tu fais ça? Tu peux dire non, c'est une partie du champ. Très bien. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi les pensées sont rentrées dans ton cœur? Pourquoi avez-vous résolu en votre cœur? Et le pire, c'est qu'ils ont résolu ensemble, en couple. S'il y en a un qui aurait pu dire, oh, on fait ça, et puis l'autre, non, c'est pas bien. C'est pour ça qu'un couple est très important, parce que quand il y en a un qui fléchit, l'autre. Il va l'aider. On va lui remettre. Oh, mais tu fais quoi là? Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Et là, ils ont résolu ensemble de mentir devant Dieu. Le résultat des courses, ça leur coûtera la vie. Merci parce que nous sommes sous la grâce. Moi, j'aspire à la présence de Dieu dans cette église, mais à la fois, j'ai pas envie que l'un de vous ou moi-même soyons apportés en jugement devant Dieu. Il y a toutes ces choses qui nous séparent de notre Dieu. C'est nos choix. Combien de fois nous avons fait des choix sans consulter Dieu? Combien de fois on a pris une décision hâtive? Je me souviendrai d'une leçon difficile que mon père a vécue quand et on lui a proposé un contrat et que le Saint-Esprit lui dit non, non, signe pas. Il dit, oh, attends, il a signé. Quelle douloureuse affaire. Mais on en a combien comme ça, de choix qu'on a fait, d'avoir acheté des choses, et puis après, à la fin du mois, il y avait des problèmes dans le compte en banque, ou que sais-je. Le manque de confiance. Moi, il y a une histoire qui revient sans arrêt aussi dans mon cœur, pour me garder justement accroché à Dieu. C'est l'histoire d'Abraham. Dieu lui a fait une promesse. Est-ce que Dieu ne vous a pas fait des promesses? Mais est-ce que vous les attendez ou est-ce que vous allez aider Dieu à s'accomplir? Combien d'histoires dramatiques dans les assemblées de Dieu, dans les enfants, les fils et les filles du royaume de Dieu se sont fichus dans la galère parce qu'ils ont voulu aider Dieu. Moi, je vois, je prie pour mes enfants et je prie pour leurs épouses. Parce que je sais que Dieu a prévu et qu'elles ont besoin d'être protégées. Comme mes enfants, ils doivent avoir confiance que Dieu a prévu une épouse pour eux. Pour ne pas avoir des yeux qui se baladent et se chercher à tout prix. Les tentations de ce monde sont grandes. Est-ce que nous avons réellement confiance ou est-ce que nous allons faire comme Abraham et on va écouter l'épouse, on va aider Dieu à faire une descendance? Dieu n'est-il pas assez grand et fort quand il t'a fait une promesse pour qu'elle s'accomplisse? Combien de fois c'est l'orgueil, notre orgueil, qui va prendre le dessus? Oh, attendez, oh, je suis un homme. Je peux maîtriser. Je peux gérer. Moi, je suis un homme, je vous le dis, blabla. Combien aussi j'ai rencontré, ce sont des conversions d'hommes, de femmes. Ils se sont convertis que partiellement. Une partie de leur vie est à Dieu, mais l'autre ne l'est pas. Jusqu'où as-tu, excusez-moi, jusqu'où as-tu, j'arrive plus à parler. Quand tu t'es repenti, est-ce que tu as été profondément ou juste partiellement? Juste une conversion intellectuelle ou une conversion de cœur, avec un cœur ouvert où on a été chercher profondément toutes les choses qui n'ont pas glorifié Dieu pour lui demander pardon. Un sincère pardon. De ne pas s'arrêter juste à « Oh, c'est bon, j'ai la grâce ». Vous savez, vous avez qu'à aller dans vos maisons et regardez tout ce que vous mettrez en priorité. Ce qui est difficile déjà pour moi, c'était une des choses que quand j'étais jeune, même pas fiancé, que j'avais dit, dans ma vie en premier, ça sera Jésus. Ce n'était pas évident à faire avaler ça à ma future fiancée, parce que là, ça passait de travers, parce que ce n'est pas dans l'air du temps. Mais quels sont les jalons que tu as mis dans ta vie pour dire en premier, c'est ça que je veux mettre? Ça ne veut pas dire que j'étais ébranlé, que je ne suis pas passé par des choses difficiles, etc. Mais ça a été des points d'appui pour ma vie future. Quels sont tes points, tes jalons? Quelles sont tes priorités? Quels sont tes engagements? Jusqu'où es-tu prêt à aller? Pose-toi les questions. Nous sommes dans une société où le compromis est une chose qu'on vous vend à tout prix. Le c'est pas grave. Oh, ce mot. Que ce soit dans ma famille, mais même au boulot, j'en souffre. Des gens vont faire des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire, mais on va arriver en ah, oh, mais allez, oh, c'est pas si grave. Mais c'est grave. Et après, ses collègues, quelques années plus tard, vont dire, oh, je ne peux plus le supporter. Mais parce que c'est toi qui l'as créé, tu lui as permis de te mal te parler. Tu lui as donné le droit d'avoir un accès dans ta vie et de te mépriser. Quels sont les droits que nous avons octroyés à l'ennemi de notre âme, d'entrer dans nos cœurs, dans nos pensées? Quel droit avons-nous laissé? Quelle porte avons-nous laissée ouverte pour que l'ennemi puisse venir nous accuser, nous condamner? Et de ne pas vivre la totale réalité de la parole de Dieu, de gloire en gloire et de victoire en victoire. C'est ce qui est dit dans sa parole. Ce n'est pas moi qui l'invente. Ou est-ce que nous allons mettre des jalons et dire non, jusque-là, pas plus? Et je peux vous dire que moi, dans ma vie, heureusement qu'ils étaient là, ces jalons. Heureusement que Dieu m'a dit, mets ces jalons-là. Parce que je peux vous dire, pour être ébranlé, j'ai été ébranlé. Et je me souviendrai de ce jour où je suis parti dans un jardin, j'ai regardé qu'il n'y avait personne, et là, je me suis mis à genoux et j'ai hurlé toutes les tripes de mon corps parce que j'en pouvais plus. Mais ça a été le jour de la délivrance. Es-tu prêt à aller jusque-là? Es-tu prêt à mettre ta vie devant Dieu et dire jusqu'au bout j'irai, même si je ne comprends pas, j'ai confiance en toi. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Tu as mis des promesses, tu as dit que tu pourvoiras. Les oiseaux du ciel ni ne sèment ni ne moissonnent, mais pourtant tu leur donnes à manger. Il n'y a aucun oiseau qui ne tombe à terre que tu le saches. Aucun de mes cheveux ne tombe que tu ne le saches. Est-ce que je vais avoir confiance en ce Dieu? Ou est-ce qu'on va dire, ouais, c'était pas mal son message. Bon, ouais, voilà. Non! Mes frères et sœurs, nous avons un Dieu qui est jaloux et il n'y a pas ombre de variation en lui. Il veut une relation exclusive. Exclusive. Mais qu'est-ce que c'est dur! Mais qu'est-ce que j'ai du mal! Je ne vous le demande pas, mais moi j'ai du mal. Il y a des fois, je n'arrive pas à me lever le matin pour prendre le temps de prière. Il y a des fois quand je prends la Bible, je m'endors devant. Et pourtant, ma victoire, elle est là. Elle n'est pas dans les télés, les séries ou que sais-je. C'est vrai qu'avec le confinement, il y a pas mal d'écrans, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Puis alors maintenant, nous sommes devenus, pour la plupart, le Seigneur m'a dit, tu vois, on a parlé d'aimant, et après il m'a parlé d'électro-aimant. Les chrétiens, électro-aimant. Je suis chrétien, je suis plus chrétien, plus. Je suis chrétien que quand ça m'arrange. Le danger, c'est de devenir un électro-aimant quand on a besoin. Ou que le Saint-Esprit nous saisit. Ah là là là, t'as secoué. Oh, je suis. Oh. Si on a du courant, enfin, s'il y a de la connexion, hein, s'il y a de la co. Si j'ai du temps pour Dieu. Ou du temps pour son Église. Bon, c'est un peu surfait maintenant, on a tout sur Internet. Allez. On est des chrétiens. Du net. Les dons ne sont pas pour l'utilité commune, par hasard? Débrancher de sa volonté. On se branche que quand on en a besoin, et on se débranche, et on est débranché de ce que Dieu vraiment veut. Des fois c'est long, des fois on a du mal, et pourtant... Luc 9, verset 23 nous dira, et là c'est Jésus qui parle, puis il dit à tous, petits et grands, hommes et femmes, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Chaque jour. C'est un engagement de chaque jour, mes frères et sœurs. Ce n'est pas pour faire joli. C'est pas que je veux faire un joli discours. C'est que moi, je combats ça tous les jours. Et quand je dis tous les jours, c'est tous les jours. Tous les jours, je vous ai dit certains versets, je les proclame sur ma vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne m'appartiens plus, j'appartiens à Dieu. Pas ma volonté, mais ta volonté. Le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est Jésus-Christ. C'est, il n'y a pas mieux. De sa naissance jusqu'à sa mort n'est qu'un exemple de vie pour nous. Et on peut lire dans les évangiles de Jean, au chapitre 6, 38. Jean 6, 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté. C'est Jésus qui parle. Wow! C'est Jésus qui parle. Et il va dire, je suis descendu du ciel, non ma... Alors, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Luc 22, 42. Nous sommes à la Pâque. Luc 2, 42 dira, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. » Combien de fois c'est ma volonté que j'ai mis devant? Combien de fois j'ai résisté au Saint-Esprit? Combien de fois j'ai... Combien de fois? Je vais conclure, je vais terminer. Dieu nous aime. Mais combien de fois c'est nous qui prenons le contrôle de notre vie? Combien de fois nous avons oublié l'engagement que nous avons pris chacun personnellement? Combien de fois l'engagement que nous avons pris et que nous sommes passés par les eaux du baptême, nous l'avons un peu rangé dans un tiroir avec un mouchoir? Combien de fois notre engagement de dire plus ma volonté mais ta volonté? Ouais, c'est bien mignon, mais bon, tu comprends, les temps ont changé. C'est plus pareil qu'avant. Ah bon? En quoi les choses ont changé? Sans moi, tu es condamné à la mort éternelle. Plus tu t'éloignes de moi, plus tu te mets en danger. Et même dira la parole, tu sors de la main de Dieu. Aucun ne peut nous retirer de la main de Dieu, si ce n'est nous-mêmes de sortir de sa présence et de se mettre en danger. Et après on dira, oh, je ne comprends pas pourquoi il y a ça et ça qui m'arrive. Quand ton frère il est malade, quand ton frère a des problèmes, combien de fois les pensées viennent et on va dire, ah oui, c'est à cause de tais-toi. La Bible dit quoi? Prie pour ton frère. Nous avons un très bon exemple, nous avons Job. Combien de paroles d'accusation on pourrait dire à cet homme qui perd le même jour toutes ses possessions, ses enfants, ses terrains, tout? Et vu que ce n'était pas assez, on va le rendre malade aux portes de la mort. Oh, on pouvait blablater hein, sur son cas. Hein. Et pourtant, Dieu lui-même dira, qui êtes-vous? Qui es-tu pour juger de ça, mon serviteur? Combien de fois nos paroles vont plus vite que notre pensée au lieu de dire, attends, il marquait quoi dans la parole de Dieu? Priez les uns pour les autres, bénissez ceux qui vous maudissent. Ne rendez pas le mal par le mal. Aimez-vous les uns les autres comme Christ vous a aimés. Que vos bouches soient remplies de douceur, de paroles de douceur et d'amour. Parce qu'il a la solution pour vous emmener dans des chemins que vous ne connaissez pas, que je ne connais pas, mais qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui, que par Jésus. Il dira que par moi. Jusqu'à quand vas-tu tenir les rênes de ta vie? Petits et grands. Dieu nous aime et Dieu nous donne des solutions. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu ne fera jamais quelque chose contre ta volonté, contre ma volonté. Mais par contre, il a la solution pour toi. Il a la solution pour moi. Es-tu collé? Ou es-tu en train de te décoller justement? Es-tu... Où en es-tu avec Dieu? As-tu cette relation où ton cerveau t'enferme dans des raisonnements qui sont contraires à sa parole? La Bible dira, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez et vous trouverez. Mes frères et sœurs, il y a une espérance glorieuse en notre Dieu. Mais ce message, je sais qu'il n'était pas facile à porter. Parce qu'il vous pousse dans certains, comme pour moi, dans des retranchements que on n'avait pas forcément envie d'entendre. Mais Dieu m'a demandé de vous rappeler qu'il est un Dieu jaloux, un Dieu exclusif, et qu'il a en horreur tout ce qui vous éloigne de lui. Père, je veux te rendre gloire pour ces paroles. Je sais que ce n'était pas, même pour moi, un message évident à porter. Mais je crois que si tu voulais que je la porte, c'est parce que tu voulais toucher des cœurs. Et déjà, premièrement, le mien, bien évidemment. Tu sais ce qui nous empêche de nous approcher de toi. Tu sais ce qui nous éloigne de toi. Mais tu as la solution. Tu as la solution pour nos vies. Tu as la solution pour notre cerveau qui y jonque et qui est toujours en train de faire des plans négatifs. Tu es souverain. Tu veux agir dans le cœur de tes enfants comme dans le mien. Et je crois à la puissance de ton nom. Je crois que tu es le Dieu Tout-Puissant qui a fait le ciel et la terre et qui nous a envoyé Jésus-Christ et qui s'est manifesté par un amour qui dépasse tout entendement. Merci pour la vie. Merci pour la jeunesse qui rit. Merci Seigneur, parce que oui, il y a de l'espérance en toi. Il y a de la vie en toi. Je veux te rendre toute la gloire, Père. Que ces paroles qui ont touché les cœurs ne s'endurcissent pas, papa, mais qu'ils soient des cœurs qui s'ouvrent et qui puissent prendre des temps dans ta présence. De dire oui, Seigneur, montre-moi ce qui me sépare de toi, ce qui te rend jaloux, qui t'hérite. Je ne veux pas être un serviteur qui hérite son maître. Mais je veux être un serviteur qui réjouit le cœur de son maître. Et je bénis, je proclame ta grâce et ta bénédiction sur tous tes enfants. Je les bénis dans le nom puissant de Jésus. Que ta gloire se manifeste maintenant et toute cette semaine, Seigneur, à chercher ta volonté. Que ton nom soit glorifié parce que tu les accompagnes de grâce et de bonté. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche.